Yaloua, bonjour, merci de répondre aux questions de Radio Campus pour la deuxième fois, puisque nous avons eu le plaisir de nous entretenir pour parler de votre venue au champ de foire à Saint-André-de-Cubzac, où on vous retrouvera bientôt le 29 janvier pour deux pièces, on va en parler, et puis on vous retrouvera encore après pour une création qui s'appelle L'Ineffable. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Alors, vous venez le 29, tout se passe bien. Vous êtes en tournée, vous circulez beaucoup ou vous allez circuler davantage après le 29?
Alors là, oui, je suis beaucoup en circulation avant et après le 29.
Bon.
Un peu partout en France et en Espagne aussi pour une création franco-espagnole.
Très bien. Et cette création franco-espagnole, elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Imperfecto.
D'accord, d'accord.
La première a lieu justement le 11 février prochain à Chaillot, à Paris.
Ah, c'est à Chaillot, auquel vous êtes toujours associé, on en avait parlé la dernière fois.
C'est ça, tout à fait, exactement.
En tant que compagnie, et je rappelle que votre compagnie s'appelle Burnout, mais quand on parlera de l'ineffable avant la création, on reparlera de Burnout. Alors j'ai simplement une petite question à vous poser pour rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui vous êtes. Vous avez toujours eu envie d'être chorégraphe et danseuse ou danseuse?
Alors au début, évidemment, c'était d'abord une envie d'être danseuse qui m'a en premier animée, parce que je suis avant tout danseuse avant d'être chorégraphe.
D'accord.
C'est en fait, c'est une fois que j'ai commencé une carrière d'interprète, donc il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années.
Oui.
Très vite, j'ai senti que ce qui m'animait le plus, c'était de créer mes propres projets.
D'accord.
Ça s'est présenté presque comme un besoin, plus qu'une envie. C'était un vrai besoin d'exprimer ce que j'observais, enfin ce que j'observe encore aujourd'hui du monde dans lequel on vit, ce que je ressens intérieurement, que je pense pertinent, en tout cas, de montrer aujourd'hui à...
D'accord. Vous êtes interprète de quelle langue?
De quelle langue? C'est intéressant. Très bonne question. Je viens de la danse hip-hop. Donc, ma première langue maternelle, disons, c'est vraiment la danse hip-hop, une technique hip-hop. Mais, très vite, je me suis un peu libérée des codifications du hip-hop, qui est une danse très codifiée,
oui.
Ce qui fait d'ailleurs toute sa force aussi.
Ouais.
Je m'en suis volontairement émancipée pour développer ma propre gestuelle.
D'accord.
Donc on ne peut plus aujourd'hui dire que je suis une danseuse hip-hop, c'est très contemporain ce que je fais.
Et de toute manière, c'est dans le hip-hop, mais qui est tout simplement une compagnie de danse contemporaine. Donc, aujourd'hui, le hip-hop est intégré. Mais vous avez aussi des intérêts. Avez-vous fait des études à côté de la danse, à côté du hip-hop, au départ?
Alors oui, des études scientifiques. Donc, rien à voir avec l'univers artistique.
Mais si vous dites qu'elles n'ont rien à voir, elles ont quand même à voir avec votre vision du monde, non?
Alors, elles ont... Oui, tout à fait, oui. Je suis très sensible à l'approche mathématique qu'on peut avoir sur le monde de manière générale.
Ouais.
Et, enfin, pour tout physique, parce que ce sont des études de physique et de maths appliquées en physique que j'ai pu faire.
Ouais.
Ce parcours-là, aujourd'hui, me sert plus comme un outil de rigueur que j'applique à mon propre travail de chorégraphe.
Ouais.
Je peux pas du tout dire que je suis une physicienne ou une mathématicienne, très loin de là. Le raisonnement mathématique qui est très pragmatique, qui fait appel à une logique, c'est simplement cette façon de raisonner que j'utilise pour écrire ma danse, pour écrire mes chorégraphies, afin de les rendre le plus possible intelligibles. Parce que, évidemment, la force et la faiblesse de la danse contemporaine, c'est parfois d'être trop abstraite. Et quelque part, même si des choses très profondes peuvent être exprimées
oui.
à travers une idée abstraite, on peut perdre une partie du public, on peut perdre aussi parfois un message simple qui est essentiel et qui transparaît.
C'est que vous avez créé au Japon, c'est ça, vous avez été invité au Japon?
Oui, alors c'est Rivers. La pièce, on prononce Rivers.
Rivers, hein, bon, on rappelle Rivers. Donc, c'est un. On réembobine ou on remonte le cours du temps. C'est une conception très mathématique, ça, justement.
Alors, oui. Oui, mais dans cette pièce-là, plutôt, je renverse les corps.
Ah oui.
Je les retourne pour les plaquer au sol.
Ouais.
Évoquer un monde complètement absurde, un monde où on marche sur la tête,
ouais.
un monde renversé, dans lequel les danseurs, en fait, ont constamment le contact avec, sont constamment en contact avec le sol, ont constamment leur tête en contact avec avec le sol, je m'exprime plus correctement.
Ouais.
Et donc, c'est à la fois une recherche technique chorégraphique, où j'utilise la technique du b-boying, donc le break dans le hip-hop, la catégorie qui est beaucoup plus acrobatique dans les différentes catégories hip-hop. Et je développe en fait cette technique-là pour la mettre au profit d'une notion, qui du coup cette notion, cette vision du monde qui est à la fois très pratique et très drôle.
Oui.
Où on a un ensemble de petits bonhommes qui marchent sur la tête, littéralement, vraiment. J'ai pas été plus loin que d'utiliser la traduction littérale de cette expression.
Bien sûr.
Et à quel point est-ce que ça amène une dégénérescence, en fait. Ça amène évidemment un non-sens. Ça amène forcément à une impact. Alors, ce sont 5 danseurs.
Ce sont 5 danseurs. Il est difficile de tenir plus de 25 minutes sur la tête, quand même, non?
Oui, 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 ça demande une...
C'est une performance.
Oui, tout à fait.
Alors, à travers ces 5 danseurs qui dansent sur la tête, bien entendu, se servent de tout leur corps, est-ce que vous essayez de raconter une histoire qui nous est perceptible à travers leurs mouvements?
Alors, oui et non.
Okay.
Évidemment, parce que le but n'est pas de raconter une histoire en tant que telle avec comme dramaturgie,
bien sûr.
On peut le voir en théâtre. Le but est d'évoquer, en fait, d'évoquer des notions. Donc, par exemple, la notion d'absurdité, de comportement qu'on répète à l'infini, au quotidien, qu'on répète aussi de génération en génération, et qui en fait n'amène pas du tout à une élévation, à un progrès de l'humanité, qui amène simplement plus à une destruction de l'humanité.
et en même temps, pardon, plein de notions qui sont des notions physiques autant que mathématiques, la gravité, le poids, la pesanteur, la difficulté d'être sur la tête, ce qu'on apprend à comprendre aux gens qui sont des cosmonautes, qui se retrouvent quelquefois sur la tête, mais en apesanteur, c'est assez passionnant ce que vous avez cherché à faire, là.
Oui, c'était passionnant, effectivement, aussi bien dans la technique de danse, de découvrir des nouvelles façons d'approcher cette danse hip-hop, qui est une danse très, très énergétique, très, très technique.
Oui.
Et à la fois exprimer une notion de l'être humain qui est aujourd'hui plus que visible au quotidien.
Très bien. Alors avant de parler de mandala, vos danseurs sont habillés de façon danseur ou ils sont habillés en costume ordinaire?
Alors ils sont habillés d'un costume très classique de bon petit travailleur. Qu'on pourrait imaginer partir le matin avec sa mallette au travail. Donc ils ont un costume très classe et en fait justement c'était comme cette pièce que j'ai créée au Japon, au Japon, c'est assez frappant de voir à quel point ils se ressemblent tous énormément.
Oui.
Les travailleurs japonais, ils ont presque tous le même costume, quelle que soit leur fonction.
Ouais.
Ce costume noir, à chemise blanche. Et pas tous, mais aussi, j'ai été frappée de voir que le soir, à 19h,
ouais,
en fait, se lâchaient dans la bière et finissaient complètement la cravate dénouée,
oui,
à tituber sur le trottoir pour rentrer chez lui le soir, et qui renouvelait chaque jour cette espèce de,
ouais,
de j'ai
oui, ce relâchement sur les autres. C'est peut-être pour ça que vos danseurs qui dansent en majorité sur la tête n'ont pas de chaussures. C'est un petit peu le début de ce lâchage dont vous parlez.
Alors là, les chaussures, c'était un besoin technique.
D'accord.
Il fallait des appuis précis au niveau des pieds.
Oui.
Pour toutes les différentes glissades et toutes, oui, tous les différents mouvements, il fallait pouvoir prendre appui sur ces plaques qui sont.
D'accord. Alors entre 2018, l'année où vous avez créé Reverse, et 2021 où vous avez créé Mandala, il s'est passé des choses. Et Mandala, c'est un mot en sanskrit qui veut dire univers. Alors on change d'échelle en quelque sorte.
On change d'échelle, oui, tout à fait, mais c'est exactement la même idée que j'ai développée.
D'accord.
C'est le même principe. C'est repartir d'un monde extrêmement mécanique,
oui,
où tout est préprogrammé à l'avance, où chacun a son itinéraire qu'il répète quotidiennement, où chacun est dans son petit mécanisme répétitif vie de l'humanité, en fait.
Oui, oui. Alors, votre œuvre Mandala, que vous appelez œuvre à visée pédagogique, implique des danseurs amateurs aussi ?
Alors, totalement. Le Mandala est dansé uniquement par des danseurs amateurs.
Très bien. Et ces danseurs amateurs que vous prenez là où vous allez ou qui se promènent avec vous ?
Alors à chaque fois, ce sont effectivement des danseurs du territoire où l'on joue.
Très bien, donc vous n'avez pas eu de mal à trouver les 20 danseurs amateurs pour Saint-André de Cubzac ?
Non, on en a 19, donc il reste encore une place. Il y a jamais des
danseurs amateurs qui sont espagnols. Bon. Et vous ?
Demain,
d'accord.
Avec deux assistants.
Oui.
Un assistant et une assistante qui,
oui,
transmettent la pièce en 10 jours, du coup un petit peu moins de 10 jours.
D'accord.
À ce groupe de 20 danseurs amateurs pour ensuite amener les danseurs à se représenter sur scène au même titre qu'un spectacle professionnel. Donc tout est fait pour qu'ils traversent
D'accord.
A à Z, qu'est-ce que c'est que créer une pièce professionnelle et qu'est-ce que c'est que monter sur scène en tant que danseur
Alors, quand on connaît le sens global, très 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 vague un petit peu, ce sont des superpositions de formes géométriques, la symétrie est parfaite, c'est un sacré boulot en 10 jours pour des danseurs amateurs, même si ce sont d'excellents amateurs.
Oui, c'est un sacré boulot. Ça demande une rigueur. D'ailleurs, que je précise au début, à chaque personne qui s'inscrit,
oui,
il faut être présent à chaque répétition. Il n'y a aucune absence n'est tolérée parce que si on perd une répétition, on est vite perdu sur les prochaines répétitions. Donc, ça demande simplement une motivation. Après, ça reste une chose accessible. L'écriture que j'ai développée sur Mandala est volontairement accessible à tous pour pouvoir en permettre aussi bien à des jeunes de 14-15 ans qui découvrent la danse qu'à des personnes plus âgées.
Je suppose que vous leur avez expliqué aussi que derrière Mandala, il y avait l'idée de la recherche d'extraire l'essence, comme vous le dites dans votre présentation. Et c'est vrai que grâce à la chorégraphie du corps et à la spatialisation du corps, on va arriver à entrer en soi et à changer et à retrouver son propre univers. C'est ça que vous leur demandez de faire aussi.
Oui, alors comme j'avais commencé à l'expliquer,
oui,
sur Reverse et sur Mandala,
oui,
le premier tableau de ces deux spectacles est assez similaire, c'est que j'installe un contexte, j'installe un monde où tout est millimétré, tout est pré-programmé, tout est répétitif presque à l'infini.
Oui.
Et donc j'installe pour moi ce monde qui est un monde terrible,
oui,
absolu, qui est justement tout ce vers quoi il ne faut pas aller.
Oui. D'accord.
Pour ensuite amener une révolution de ce monde-là.
D'accord.
Pour amener le fait que ça amener le besoin nécessaire de stopper cette répétition mécanique et vide de sens.
Oui.
Mettre un terme pour reconstruire un nouveau monde qui est basé sur l'humain, sur l'écoute des uns et des autres, sur la considération de qui est à côté de moi, avec qui répond à mon geste, qui je suis moi au milieu de ces autres. Et mais avant de parler de ça, pour parler de cet aspect-là, qui est le cœur de les deux pièces,
oui,
c'était important pour moi au départ d'installer l'antithèse, en fait.
Donc, alors, c'est une contradiction qu'on comprend très bien. Nous partons tous, quand nous pensons à la danse, c'est d'abord des gestes mécaniques pour qui nous permettent d'oublier qui nous sommes, alors qu'en fait, vous demandez à vos danseurs amateurs, comme vous demandez à vos danseurs professionnels aussi, de quitter cet état mécanique pour atteindre un état de conscience. Et au fond, au cœur de votre travail, il y a ce mot qu'on pratique beaucoup actuellement, qui est l'empathie.
Exactement, exactement. Ouais. Oui, oui, oui.
Voilà.
Le message le message final est ce message d'empathie, de même plus d'empathie, de compassion.
Bien.
Au-dessus, je pense, de l'empathie là.
Eh oui. Et la compassion est beaucoup plus que la pitié de l'autre.
Ah oui, c'est
vous avez tout à fait raison.
Pas du tout. La compassion, pour moi, je le vois comme le désir
De partager.
De libérer l'autre de ses souffrances.
Tout à fait, tout à fait. Ouais, je vous remercie infiniment de cette définition qui me convient très bien. J'ai souvent eu l'occasion de penser que compassion, c'était avec passion. Hein. Bon, c'est
oui,
pour ça.
Oui,
mais écoutez.
Oui, oui.
Nous allons nous retrouver le 29 janvier. Les deux spectacles durent 50 minutes. Il y a une petite pause entre les deux, je suppose.
Il y a une petite pause d'une dizaine de minutes.
D'accord.
Pour changer de plateau.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt, Philippe. Au revoir.